Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Place de la République, c'est une série de reportages en immersion dans nos services publics. Aujourd'hui, le CHU à Amiens et deux services du commissariat d'Auxerre. C'est la fin, ou au moins l'avant-dernière, de cette série, et on finit justement là où s'achève parfois le passage par l'hôpital, la chambre mortuaire tout au sous-sol. Un couloir y mène directement depuis le service des urgences, et tout à côté se trouve le service des prélèvements d'organes. La surprise dans ce sous-sol aujourd'hui, peu avenant, c'est la secrétaire médicale qui s'est découverte une véritable passion pour son travail. Avant ça, nous partons à Auxerre, dans les locaux de l'ADAVIRS, qui est une association qui travaille en lien avec le commissariat et s'occupe du suivi des victimes et des auteurs d'infractions. Mais pour commencer, nous passons la nuit en planque avec deux policiers du renseignement territorial, l'ancienne DGSI, en gros les renseignements généraux. Leur mission, c'est d'identifier et de prendre en photo des dealers de cannabis qui tiennent un point de vente en plein centre-ville d'Auxerre, c'est-à-dire à quelques mètres de la principale rue commerçante et sa fameuse fontaine de Cadet-Roussel, figure emblématique de la ville d'Auxerre. Le trafic nuit aux commerçants du centre-ville, raison pour laquelle les policiers ont été amenés à intervenir. Et pour que leur mission soit efficace, ils doivent être bien cachés. Donc on ne vous dira pas où ils sont planqués. Disons que c'est dans un local qui leur permet d'observer de manière très précise les dealers et d'en prendre des photos avec de grands téléobjectifs. Le but, c'est de saisir l'instant T où a lieu l'acte de vente, la transaction, où on voit bien l'échange entre la drogue et l'argent. The Wire, c'est le spin-off à Auxerre dans Place de la République, 12e épisode. C'est parti, et c'est signé Pauline Mocor et Rémi Dibowski-Douatte.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Police Secours, bonsoir.
On va essayer d'être le plus discret possible, parce que les fenêtres donnent juste au-dessus des individus. S'il y a une transaction en bas des marches, on le verra, quoi. Elles sont juste dans les escaliers. Ils sont 3, 4. Donc là, il y a celui qui est assis avec le pantalon beige. C'est un des objectifs qui nous intéresse le plus. On le connaît, on sait qu'il fait dans le stupéfiant depuis un petit bout de temps. Il est connu des services. J'ai déjà eu l'occasion de travailler sur un trafic ailleurs et il en faisait partie. Enfin bon, voilà. Et ça serait bien que lui, effectivement, parce que jusqu'à présent, il ne l'a pas eu en tant que revendeur. Donc ça serait intéressant pour nous. Ça permettrait de grossir un petit peu le trafic. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas un seul revendeur comme on a pu voir jusqu'à présent, mais un deuxième. Donc on le sait, lui, mais après c'est toujours pareil, il faut prouver. Hein. Donc on attend le client en fin de compte. Tout ce qu'il nous faut, c'est ça.
Ça peut prendre 30 secondes. Comme ça peut mettre 3 jours avant qu'on voit quelque chose.
Il est en train de brûler la résine de cannabis pour se faire un joint. Ça va être essentiellement de la résine. Après, ils peuvent taper dans un peu plus fort.
Moi, j'ai arrêté la procédure judiciaire parce que j'ai perdu foi en la justice. Un jour, j'avais dans mon bureau une personne qui avait détourné 400 ou 500 000 euros. dans une société, donc une grande entreprise française. Le monsieur a reconnu les faits, parce qu'en financier, l'avantage, c'est qu'il y a tout est marqué, il y a des traces partout. Et au tribunal, n'en courait que, je crois, 50 ou 75 000 euros d'amende. En partant, en sortant de mon bureau, une fois que son audition était terminée, qu'il avait sa convocation au tribunal, le monsieur, il m'a souri, il m'a dit « Vous les voulez tout de suite en espèces ou je vous fais un chèque ?» Et au tribunal, je crois qu'il a été condamné à 15 ou 20 000 euros d'amende. Et il s'en est tiré, il a payé, il est parti, il est rentré chez lui. Parce qu'en financier, les peines de prison sont exceptionnelles. C'est très très rare. Ah, c'est sûr, il a une ligne sur son casier judiciaire, il a pris un an ou deux avec sursis, mais il est libre. Oui, vous voyez la différence en fait entre le vendeur de shit là qu'on court, le trafic c'est 10 ans, prison. Là, nos collègues vont arrêter ces trafiquants, mais ils vont pas chercher à savoir si l'argent du trafic sert à nourrir une vieille dame qui est en fauteuil roulant ou quoi que ce soit. Tout ça pour en revenir au fait qu'on travaille beaucoup pour une réponse pénale qui nous fait perdre la foi, tout simplement.
On a une profession aujourd'hui, on est obligé de cacher ce qu'on fait. Déjà parce que, je vous ai dit, en matière de renseignement, on essaye d'être le plus discret possible. Voilà, on ne se présente pas comme étant fonctionnaire de police. Moi, je sais qu'à mon grand qui est au collège, il doit cacher que je suis policier, quoi. Pour pas qu'il ait de soucis. Donc, je dis de dire que je suis pompier ou fonctionnaire aux impôts. Parce que nous, encore, on est dans des zones rurales, mais bon, on est à l'abri nulle part, finalement. Et on l'a vu, hein, des enfants de collègues qui ont eu des problèmes en milieu scolaire. De violence, des insultes. Classique. Donc, on veut s'éviter tous ces problèmes-là pour nos enfants. Bien sûr, on a envie de vivre comme monsieur tout le monde. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on prend certaines précautions. Ce qui est logique.
Oh putain, c'est eux. Ils sont trop transparents. Bon, ça sent le joint. Il y en a un qui doit fumer dans les étages juste en bas ou à côté de la porte d'entrée. Ils ont fait le tour et là, ils sont juste devant notre sortie.
On peut pas sortir.
Donc, ce qu'on fera, je pense, soit on attend qu'ils partent, soit on va faire un peu de bruit, de manière à ce qu'ils voient qu'il y ait du monde et ils s'en aillent par eux-mêmes.
Le problème, c'est qu'après la planque, ils vont se méfier, quoi.
Attends 5 minutes, et puis... 5 minutes, mais on y va.
Je vous en prie. Asseyez-vous. Alors, je me présente. Donc, je suis juriste au sein de l'association d'aide aux victimes, la DAVIRS. Alors, notre rôle, il est de vous accompagner dans les démarches. Okay. C'est gratuit, complètement anonyme. Et le but, il est tout simplement de voir s'il y a des choses qui ne sont pas très claires pour vous. Mmh. D'accord ? Alors, expliquez-moi un petit peu votre situation.
Donc, il y a 4 mois, donc à fin juillet, j'ai eu un accident de voiture. Suite à ça, donc, j'ai arrêté de travailler. Donc, je ne peux pas reprendre une activité professionnelle. Après mon dépôt de plainte, en fait, je reste bloquée au niveau des assurances, en fait, tant que je suis pas passée au tribunal. Et on m'a dit éventuellement d'avoir un avocat, mais bon, je savais pas.
D'accord. Oui, donc vous êtes comment. Un petit peu perdu dans les démarches.
Voilà.
Vous avez votre récépissé de dépôt de plainte,
oui.
Du coup. Donc vous avez déposé plainte pour blessure involontaire avec un ITT de moins de 3 mois. Et ça s'est déroulé le 28 juillet 2018. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ?
Donc c'était en fin de soirée, donc il commençait à avoir le soleil qui se couche et apparemment la dame a été aveuglée par le soleil. En fait j'étais sur la grande départementale, en grande ligne droite et en fait j'ai vu la dame qui a pour moi grillé le stop. J'ai voulu freiner et je me suis dit je vais aller dans le champ à côté mais j'ai pas eu le temps et en fait vu qu'elle a grillé le stop en fait elle m'a percuté côté conducteur et c'est pour ça que la voiture s'est retournée. Je me souviens de quelques tonneaux. Et j'ai repris connaissance, j'avais du monde autour de moi. Donc,
D'accord, donc vous avez déposé plainte le 30 juillet.
Oui.
Vous aviez été hospitalisée, etc. Avec des examens médicaux.
Je suis ressortie le soir même. Mm-hmm. Il devait être 1 ou 2 heures du matin.
Vous aviez quel genre de blessure, madame?
J'ai été brûlée tout l'avant-bras, la cheville, la clavicule. J'ai perdu des cheveux aussi, parce que ça m'a brûlé le crâne. J'ai eu un gros trauma crânien. Vertèbres et bassin déplacés, la hanche, genou et un peu...
Alors, au niveau des démarches, dans l'ordre chronologique, vous avez déposé plainte, mm-hmm. vous avez fait une déclaration à votre assurance, la personne en face aussi.
Aussi, oui.
Et donc, ils sont déjà mis en contact, les assurances, ou pas?
En fait, ils ne peuvent pas se mettre en contact parce que je suis assurée au tiers et du coup... donc pour le moment, c'est ma parole contre la sienne. Et en fait, ils attendaient d'avoir tous les témoignages recueillis oui. de la part de la gendarmerie pour pouvoir avoir accès au dossier. Mon assurance a relancé la gendarmerie, mais pour le moment, on n'a aucune suite depuis 4 mois du
D'accord.
dossier.
Donc si vous voulez, tout à l'heure, on va appeler le gendarme Catel, oui. qui est celui qui est en charge de votre dossier. On peut faire les démarches qui vous évitent justement d'avoir l'impression d'appeler.
C'est ce que je fais depuis 3 semaines, en fait, et ouais, j'ai pas de retour. On me dit qu'il va me rappeler, mais bon, ça devient un peu...
D'accord. Donc, il n'y a aucune difficulté. Je pourrais aussi, en plus du coup de fil d'aujourd'hui, demander aux gendarmes où en est l'enquête. D'accord.
Il m'a dit qu'il avait déjà pris 2 témoignages, mais en fait, la dame qui était derrière moi, qui a aussi vu la scène, m'a recontactée et a accepté que je la mette en témoignage. Donc, je voulais demander aussi aux gendarmes si c'était possible, de la mettre en témoignage.
Bien sûr, on va appeler. Vous êtes confrontée à quelles difficultés aujourd'hui? C'est-à-dire, vous n'avez plus de véhicule? Comment ça se passe?
En fait, mon souci en ce moment, c'est surtout sur l'aspect financier pour repartir sur de bonnes bases au niveau du travail. Je faisais beaucoup d'intérim, donc je travaillais en manufacture, donc tout ce qui était porte de charge. En fait, en intérim, j'ai fait une résiliation de période d'essai. Je ne pensais pas que ça allait me couper en fait, les frais de chômage ou autre. Et en fait, je devais reprendre un travail dans la semaine qui suivait mon accident. Et j'ai pas pu reprendre le travail suite à mes blessures. Et pour le moment, j'ai pas d'aide financière, donc je reste à découvert. Donc en fait, je peux pas me soigner pour le moment. Je peux pas non plus envisager de reprendre le travail parce que rien que pour les frais d'essence, c'est juste pas possible.
D'accord.
Et j'avais relancé mes concours en gendarmerie, mais ça reste des métiers physiques, donc j'en ai plus la capacité.
À cause du tout.
Non, mon médecin m'a dit que. En fait, j'ai encore des séquelles au niveau des cervicales et m'a dit qu'avec tout ce que mon dos avait eu.
Ça risquait d'être compliqué.
Voilà. Donc j'ai laissé ces métiers-là et je vais essayer de reprendre avec les enfants handicapés ou dans la vente.
Donc ça risque d'avoir des conséquences quand même sur votre avenir.
Travail, oui. Donc j'ai la chance d'avoir une maman qui m'a donc chez qui je vis. Donc j'ai plus de charges financières au niveau loyer.
D'accord.
Mais c'est un changement de ma vie qui n'était pas prévu et auquel je dois m'adapter et qui est compliqué pour moi aujourd'hui en fait. Surtout sur le plan d'autonomie, parce que depuis mes 15 ans, je travaille. Depuis mes 17 ans, j'avais mon autonomie. Et en fait, je l'ai perdue. Enfin, tout s'est brusqué. Et ce qui a été le plus compliqué pour moi, c'est aussi la perte de mémoire, ce qui m'a changé. Les gens autour de moi ont remarqué que j'ai changé moralement, dans ma façon d'être, dans mon comportement. Ne pas se rappeler de certaines personnes, ça a été aussi un choc pour moi. J'ai oublié des amis, j'ai oublié quelques souvenirs. Et j'avais ce qu'on appelle un journal intime, en fait. Et j'y notais beaucoup de choses. Et en relisant certains passages de ma vie, j'arrivais même des fois à ne pas comprendre certaines de mes réactions, en fait. Et c'est des choses qui sont assez perturbantes, en fait. Où quand on a un minimum de stabilité, de se dire, à cause d'un accident, on a l'impression de tout perdre, en fait, sur le moment.
Vous avez l'impression d'être quelqu'un d'autre.
Mes réactions ont changé, ma façon de penser a changé. Mes envies ont changé. Il y a certaines choses que je dois accepter et c'est pas forcément évident.
Vous avez le soutien de votre maman.
Oui.
C'est déjà ça, effectivement. Et donc, votre assurance, du coup, vous êtes, comment dirais-je, un peu déçue, j'imagine, de leur réponse.
En fait, on s'attend pas à ce qu'en prenant une assurance, en ayant un tel accident, on se dise, écoutez, madame, vous êtes assurée au tiers, vous n'êtes pas forcément touriste. Donc sous prétexte que vous payez moins, vous n'êtes pas, on va dire, prioritaire sur vos charges. Et j'ai été contrariée dans le sens où je leur ai dit, mais ça veut dire que je n'aurai pas ma mère ou je n'aurai pas un soutien financier. Je serai dans l'incapacité de me soigner personnellement. Et en fait, je devrai attendre une procédure pour pouvoir me soigner correctement. Et j'ai un peu trouvé ça inadmissible.
C'est difficile, oui.
Pour le moment, je suis à plus de 600 euros de dépenses médicales à ma charge. Donc j'ai la chance d'avoir une maman qui m'aide, mais je suis quand même à découvert et ça m'empêche de payer mes prochains frais médicaux. Et ça pèse sur le moral de devenir dépendant de quelqu'un et c'est compliqué.
Et alors, vous avez déjà rencontré une assistante sociale ?
Oui, qui m'avait dit que pour le moment, il n'y avait pas assez d'heures cumulées pour toucher le RSA ou avoir une aide.
Et votre maman, elle a quel type de revenu ?
Elle est en retraite.
Donc là, ce qu'on peut faire, c'est appeler la gendarmerie de Pont-sur-Yonne, leur demander où en est l'affaire. Concrètement, dans combien de temps est-ce que cette affaire va être transmise au procureur de la République ? Parce que c'est ça la difficulté que vous allez avoir. On est dans le temps...
On va dire un minimum de 4 mois.
Ouais. Voilà. On est dans des délais complètement normaux de traitement d'une affaire d'accident de la voie publique, avec blessure. À la suite de ça, vous allez avoir une réponse de la procureure de la République, qui peut-être va consister à poursuivre cette personne. À ce moment-là, il sera opportun de prendre un avocat. Et c'est là qu'on va pouvoir, éventuellement, demander des dommages et intérêts par rapport aux conséquences que vous avez et que vous aurez malheureusement plus tard. Alors, on va appeler ensemble la gendarmerie de Pont-sur-Yonne, au moins pour savoir si ce gendarme est disponible ou si on peut nous dire où ça en est.
Vous accueillez 24 heures sur 24. Un gendarme va traiter votre appel. Bonjour.
Oui, bonjour, Madame Boire de la Davirs à l'appareil.
Oui.
Je m'excuse de vous déranger. Je vous appelle, je suis en présence d'une victime, Madame T, qui a eu un accident de la voie publique au mois de juillet et dont la situation est complètement bloquée au niveau de l'assurance qui attend en fait des nouvelles de la plainte qu'elle a déposée. Est-ce qu'éventuellement vous pourriez me dire avec le numéro de procédure où ça en est, s'il vous plaît ?
Donnez-moi le numéro du PV.
1911 sur 2018.
Il est toujours en cours.
D'accord. Vous savez si le gendarme qui est en charge du dossier est disponible, s'il vous plaît ?
Il n'est pas là aujourd'hui.
D'accord. Alors moi, j'ai la permanence mardi prochain. Est-ce que vous savez s'il sera là ?
Attendez, je regarde ça.
Merci.
Mardi le 27 ?
Oui, de 9h30 à midi.
Parce que c'est le gendarme Cattel.
Oui, c'est ça.
De nuit. Il est de nuit. Je ne sais pas s'il sera là le matin ou pas.
Ceci étant, même s'il n'est pas là, je vais peut-être pouvoir avoir quelques informations sur place avec un des collègues, il n'y a pas de souci.
Tout à fait.
Eh bien écoutez, je fais le point avec vous mardi prochain.
Très bien, il n'y a pas de souci.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir. Donc, vraisemblablement, j'ai la même réponse que vous, c'est en cours. Je m'y attendais un petit peu, mais... Au moins, on sait que c'est dans les locaux. Je ne sais pas si je verrai ce gendarme ou pas ce jour-là. En quoi qu'il en soit, comme je serai sur place, soit on prend rendez-vous ensemble à Pont-sur-Yonne la semaine prochaine, d'accord ? Comme ça, vous êtes là physiquement. Et puis, vous pouvez aussi donner l'identité de l'autre témoin.
Oui.
Hein ? Alors, est-ce que 10 heures vous convient ?
Oui.
Alors, effectivement, c'est pour qu'on fasse connaissance et surtout que vous sachiez à quoi on sert et en quoi on peut vous aider. Mais pour autant... J'ai pas la baguette magique pour résoudre tout de suite financièrement la difficulté. D'accord ?
Oui, j'aurais pas ma mère, je pense que j'aurais personne et ce serait compliqué pour moi.
En tout cas, voilà, vous pouvez compter sur son soutien, mais on pouvait aussi compter sur le nôtre.
Oui, merci beaucoup.
Ça va aller pour rentrer ?
Oui. Bon.
Écoutez, bonne route, faites attention.
Merci beaucoup.
Et puis on se voit mardi prochain à Pont-sur-Yonne.
D'accord.
Merci. Allez, au revoir, bon courage.
Au revoir.
France Culture, les pieds sur terre.
Bonjour et bienvenue au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie.
Le CHU Amiens-Picardie, bonjour.
Bonjour.
Elle a combien ?
150.
150, tu as tenu.
Et t'as pu récupérer ses dents ? J'attendrai.
Alors moi j'ai débuté tout simplement étant jeune par un petit remplacement. On avait besoin d'une personne pour faire un petit peu de classement d'archives et voilà, je suis arrivée pour 2 mois et il y a très longtemps puisque j'avais 20 ans, j'ai bientôt 60 ans et je suis toujours là. Maintenant je suis arrivée à la chambre funéraire. Je n'ai pas débuté à la chambre funéraire, en fait j'ai débuté au service économique. Ensuite j'ai fait plusieurs services parce que au bout de 2-3 ans en fait je voulais découvrir de nouvelles choses. Donc j'ai fait beaucoup de secrétariat, de l'accueil, des finances, du contentieux. Et puis je suis arrivée à la chambre mortuaire et là j'ai trouvé vraiment ce qu'on peut dire mon point de chute en fait, mon point de cœur. J'ai vraiment adoré être en contact avec les familles, avoir ce ressenti de pouvoir apporter de l'aide à toutes ces familles, même si l'aide est minime à mon niveau. Hein. Mais vraiment, là, j'ai trouvé une raison de venir travailler avec le sourire malgré tout. Bien que ce soit une chambre mortuaire, je viens avec le sourire. Souvent on me pose la question, ça doit être difficile, ton travail doit être vraiment très compliqué, mais non. En fait, c'est au-delà d'un travail, c'est un accueil de familles qui ont besoin d'aide, de pouvoir déjà les décharger de cette tâche administrative qui est un peu rébarbative. Je sens que ça les soulage un tout petit peu après, de pouvoir les écouter, se rendre disponible, être là parce qu'ils ont besoin d'avoir quelqu'un en face d'eux, ça me fait beaucoup de bien à moi. Cette souffrance que vous pouvez soulager un tout petit peu vous permet de relativiser vos petits bobos à vous, les petits bobos de la vie, des petits chagrins ou les choses de la vie courante auxquelles on donne parfois trop d'importance. Quand on voit la réelle souffrance de certaines personnes, on se dit qu'on n'a pas le droit en fait de se plaindre. Avant cela, j'avais très très peur de la chambre mortuaire. Et le jour où j'y suis arrivée, en fait, là, j'ai compris que j'étais faite pour ça. Je n'ai plus l'envie du tout d'aller travailler ailleurs. Je n'ai plus envie de découvrir d'autres choses. J'espère rester ici jusqu'à ma retraite proche, dans 3 ans. Bon, encore 3 années à offrir. J'aurais envie de continuer par rapport à mon métier, mais j'ai envie d'arrêter parce que, parallèlement à ça, j'ai aussi une petite vie à chouchouter à côté. Un compagnon, des petits-enfants, des enfants, j'ai beaucoup de choses à redécouvrir. En fait, le métier est très prenant, bon, même si j'arrive à mettre des barrières, mais je suis au décès. Même si je suis à la maison, bon, j'arrive à vivre normalement, hein, tout à fait normalement, mais j'accompagne quand même parfois dans ma tête et dans mon cœur ces familles que j'ai pu croiser entre deux. Et j'emmène quand même beaucoup de ressentis avec moi. J'ai mis un peu en parenthèse une partie de ma vie, peut-être inconsciemment. C'est quand même un métier qui peut vous amener à changer le caractère, à changer la façon d'être. Je pense que ça m'a rendue beaucoup plus tolérante, plus gentille aussi. Et ça a changé ma façon de voir la vie. Il faut vivre au jour le jour et vivre ses sentiments tels qu'on les ressent au moment où on les ressent, mettre de côté les mauvais sentiments et puis profiter de la vie. Si j'avais fait des études, j'aurais voulu être dans l'aide, mais physique. J'aurais bien aimé être esthéticienne ou apporter du bien-être physique, en fait. J'aurais aimé m'occuper des gens. J'aurais aimé aussi, et surtout, je crois, m'occuper de personnes handicapées. Voilà, mais j'ai pas fait d'études. La vie a fait que ma maman ne travaillait pas. Elle a élevé ses enfants après une vie un peu décousue. Nous étions 3 enfants, mes parents ont divorcé quand nous étions très jeunes. Et très peu de temps après, mon papa est décédé dans un accident de voiture. Quand j'avais 12 ans, donc on ne s'est pas beaucoup connus, on n'a pas eu l'occasion de se connaître longtemps. à cet âge-là, on n'accepte pas forcément les choses. Et puis, psychologiquement, c'était un petit peu tendu pour moi, je pense. Moi, je me demandais... Bon, on me disait, il est mort, mais je l'ai vu hein, sur son lit de mort, mais je le voyais dans les rues. Malgré tout, après, je le voyais partout. Et pour moi, il était mort, mais il n'était pas mort. Et je voulais qu'on m'explique, il est mort, c'est quoi la mort? Où on est après? Bon, bien sûr, maintenant, je ne peux pas vous dire aujourd'hui où il est. Mais je sais aujourd'hui par où il est passé, en fait, puisqu'il est venu au service mortuaire de l'hôpital Nord. Et quand je suis allée à l'hôpital Nord, en fait, j'ai refait un parcours, le parcours de mon papa. Et en fait, je me suis dit, maintenant, je sais où il est passé, après l'accident, ce qui s'est passé, etc. Bon, c'était un parcours que j'avais besoin de refaire pour comprendre par où il était passé. J'ai l'impression d'être passé avec lui, en fait. Et j'ai fini par y travailler, sereinement. Et après, j'ai appris à gérer ça, en fait. Et je pense que c'est peut-être par rapport à ça que j'aime autant ce que je fais maintenant. Parce que je crois que dans l'enfance, j'ai dû apprendre à gérer cette souffrance, à comprendre comment passer par-dessus ce genre de choses. Et je crois que c'est ça, en fait, qui aujourd'hui me donne cette force dans mon métier. À mon avis, ça a un rapport. Et c'est peut-être aussi ce métier qui m'a aidé à guérir ces blessures du passé. Je pense que ça m'a apporté beaucoup de réponses, en fait. Ça m'a aidé à comprendre, peut-être à comprendre où il est aujourd'hui, en fait. Quand on est petit, hein, on est jeune, on papa décède, bon ben voilà, il est parti, mais il est où? On se pose beaucoup de questions et à cette époque-là, on nous expliquait pas la mort. Hein, c'était tabou, on nous disait rien, on parlait en cachette et on reste avec beaucoup de questions, beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Et moi, je suis arrivée dans ce métier et ça m'a vraiment ouvert les yeux et l'esprit. Et je pense que maintenant, par rapport à ça, j'arrive parfois à trouver les mots. Par rapport aux familles qui sont devant moi, j'arrive à les apaiser. Parce que moi, je pense que j'ai réussi à m'apaiser à travers mon métier, oui. C'était Place de la République, épisode de numéro 12, reportage Rémi Dibowski-Douat et Pauline Mocor, réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à Catherine Maupetit-Gel, Séverine Collado, Marie-Laure Boire, au commissaire Thomas Boudot, capitaine Diloulo, à Annie et à Jean-Louis et Jeanne Delecroix, l'attaché de production des Pieds sur Terre, et c'est Zoé Marie Roulier, notre stagiaire.